Une autre secte importante, et peut-être plus importante par sa conséquence, et en tout cas moins ridicule, plus glorieuse, je dirais, d'une certaine façon, vient de... ce qu'on appelle le transcendantalisme, et qui est tout simplement la doctrine d'Emmanuel Kant, un philosophe allemand, qu'il a développé en 1790-92 dans son fameux livre « La critique de la raison pure ». Kant défend l'idée que la raison n'est pas du tout le réel, comme le croient les rationalistes, mais que le rationalisme est une couverture qu'on met sur le réel, une sorte d'image, de carte, qui permet de lire le réel, et que ça n'a rien à voir avec le réel. C'est-à-dire que les principes qui fondent le rationalisme, principes géométriques, mathématiques, principes de causalité, principes d'identité, sont des inventions de l'esprit humain pour y voir clair. Mais que ce que nous appelons le réel, ce que nous appelons la raison, n'a rien à voir avec la réalité. Tout repose en réalité sur des structures. Bon, ça peut être des mythes, ces structures. Ça peut être des dieux. Ça peut être des noumènes. Kant appelle ça des noumènes. Ça peut être des points. Ça peut être des atomes. Bon. Cette idée a été combattue en Europe très vite par Hegel et par les philosophes du 19e qui trouvaient que c'était tout de même un peu simple de ramener toute la réalité connue à une sorte de carte mentale, et qu'on ne pouvait pas tout ramener comme ça à des idées mythiques. Mais ce mouvement a eu beaucoup d'importance, beaucoup d'influence en Amérique. Et peut-être le plus grand écrivain américain, il faut le dire et le répéter sans cesse, parce que les Américains eux-mêmes ne le savent pas, mais le plus grand écrivain américain, Garpo, a bien posé qu'il y avait ce mouvement, qu'il appelle des Kantiens, puisque ça vient de Kant, mais il écrit ça avec un C, pas un K, les Kantiens, et en face des Kantiens, il y a les Hoggiens. Les Hoggiens, ben, ce sont les disciples d'Hegel et des autres. Il dit disciples de Locke, mais c'est la même chose. Qui sont, eux, les rationalistes purs et qui nient que le réel ne soit fait que d'idées, ou de ce moins ne soit lu que par des idées. Et je cite Garpo avec d'autant plus de force et de nécessité ici, que Garpo n'est pas transcendantaliste. Il a horreur des transcendantalistes. Enfin, il est considère comme en dehors, lui, il se veut un poète, il se veut le poète de l'apôtre du beau, de l'harmonie, et il ne veut pas du tout de philosophie. Enfin, philosophie. Donc il n'aime pas les transcendantalistes, qui vivent en même temps que lui, précisément en 1848, où il va écrire « Eureka et mourir ». Eh bien, une secte, celle de Brook Farm, B-R-2-O-K, Farm, ferme, F-A-R-M, Brook Farm, va voir éclore les plus grands écrivains américains du 19e siècle avec Edgar Poe, c'est-à-dire Emerson, Hailstorm, H-A-W-T-H-O-R-N-E, dont la lettre écarlate est une extraordinaire machine ésotérique, et Melville, dont vous connaissez peut-être la Moby Dick et d'autres grandes œuvres, eh bien, tous sont sortes de Brook Farm où ont été amis les uns des autres. Il y a un lien direct d'Emerson à Melville, c'est tout à fait étonnant, on ne le sait pas assez, et ça se retrouve dans leurs œuvres. C'est dire l'importance de cette secte. Je crois qu'on trouvera de secte aussi importante littérairement que vers 1900, la Golden Dawn. Il est rare qu'une secte réunisse autant de grands esprits. Or, il est très étrange que les Egarpo, je dis qu'ils n'aiment pas ce secte, Egarpo, lui, n'aime pas du tout les Républicains. Il n'aime pas les Républicains, toute sa vie le prouve et ses heures. Et la légende veut qu'il soit mort une nuit d'élection, où on faisait boire, où les Républicains faisaient boire pour amener les gens à signer pour leur propre candidat. Et comme c'était un homme fort porté sur la boisson, ce pauvre Garpeau, on pense qu'il n'a pas pu résister à cette tentation de se faire payer à boire à droite et à gauche. Et on l'a retrouvé dans les rues de Baltimore au matin, et il n'a survécu que 2 jours à l'hôpital. C'était un homme un peu fou à la fin, comme tous ces grands, je dirais comme tous les grands écrivains du 19e. Depuis Hölderlin ou Novalis, jusqu'à Nietzsche ou Artaud ou Rimbaud. Mais lui était particulièrement étrange. Alors que du Sud, virginien, fondamentalement virginien. Alors que les autres, Emerson d'abord, sont des écrivains qui se sont ouverts, se sont même portés défenseurs du Nord à certains moments, parce qu'ils ne pouvaient pas, eux non plus, tolérer l'idée de l'esclavage. Et il croyait, il voulait croire absolument dans un avenir de fraternité et d'égalité entre les hommes, même s'ils en ressentaient les dangers. Donc on voit bien l'opposition, là encore, même dans ce noyau littéraire qui est au cœur du 19e siècle américain. Bien sûr, on dira que la guerre de sécession, c'est bien autre chose qu'un conflit littéraire. Il a mis aux prises toute l'Amérique. Il a entraîné des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de morts. Ça a été la guerre la plus meurtrière, peut-être avec les guerres napoléoniennes, mais les guerres napoléoniennes avaient duré sur 10 ans. Et là, c'est une seule guerre qui a causé ça. Il faudra attendre 14-18 pour voir des millions de morts, il faudra attendre la dernière guerre pour voir 60 millions de morts. Mais là, on est à un point charnière avec la guerre de sécession, où vraiment les hommes sont décimés par la guerre. Ce n'est plus la guerre en dentelle, où il y a quelques morts, où ce ne sont pas les guerres tribales, où on s'arrête au premier mort parce que le rite est respecté. Il s'agit de guerres qui font des centaines de milliers de morts en attendant de faire des millions de morts. Je voulais vous parler... Oui, il faudrait, je vois, je suis toujours pris par le temps. Je m'excuse, je vais très vite, pourtant je parle peut-être trop vite. Hein. C'est passionnant de voir de près, mais je n'ai pas le temps d'en parler, l'évolution des sectes aux États-Unis pendant tout le siècle dernier. Il y aurait, je crois, 1 millier de sectes chrétiennes, simplement chrétiennes ou néo-chrétiennes ou judéo-chrétiennes, ou anglo-catholiques, ou vieux catholiques, ou qui se sont succédés au cours du 19e. Je vous parlais tout à l'heure des méthodistes qui ont été créés par un Anglais, un étudiant d'Oxford. Mais il y a plusieurs mouvements méthodistes. Il y a des méthodistes Whig et d'autres qui sont Tories, c'est-à-dire des uns qui sont plus près des princes, les autres plus près du peuple, les uns qui sont plus près du catholicisme, les autres plus près du protestantisme. 20 fois au cours du 19e siècle, des hommes doués d'intelligence, de raison, des grands esprits, ont trouvé cette situation intenable. Ils ont voulu réunir, ils ont voulu créer un œcuménisme protestant qui existe quand même à peu près maintenant. Créer un œcuménisme où toutes les sectes protestantes se reconnaîtraient, au moins si elles ne peuvent pas reconnaître Rome, qui est au moins une union entre eux. Mais ce n'était pas possible. Dès qu'on créait une secte, par exemple la secte des Quakers, qui était une secte du 17e siècle, qui se fondait sur l'honneur, sur la notion d'honneur, mais donc sudiste, si vous voulez, lorsqu'elle a débarqué en Amérique, mais qui en même temps croyait en l'égalité et créait l'égalité. C'est une des premières sectes où l'homme et la femme, par exemple, doivent prendre alternativement la parole dans les sectes, que l'un ne soit pas inférieur à l'autre, que les hommes de couleur soient reçus exactement comme les blancs, etc. Donc nous avons là une secte de jointure entre une certaine égalité et un certain sens de l'individu, par cette notion tout à fait nouvelle à l'époque d'honneur. Bon, l'honneur, ça va devenir, on sait bien, les duels des mousquetaires, et puis en Amérique, ça va être le duel aussi au soleil, chacun sortant son colt, tirant son colt. Et celui qui tue, ben, c'est celui qui a raison, et celui qui a tué, c'est celui qui a tort. Ça débouchera sur de ridicules et de monstrueux aussi, mais c'était quand même une certaine grandeur. Puisque je vous ai parlé de Fox, il faut quand même, je vous dis, les sectes sont rarement meurtrières au départ, elles partent toujours d'un bon sentiment, et ceux qui créent des sectes sont généralement des hommes extraordinaires. Fox avait pris la route dès 14 ans, et à 19 ans, il a reçu son illumination, qui était que ce qui habitait l'homme, c'était une sorte d'inconscient, de verbe intérieur, de lumière intérieure, qu'il lui fallait suivre, auquel il devait obéir, et que c'était ça l'honneur de l'homme. C'était d'obéir à sa conscience, si vous voulez, d'obéir à ce qui, au fond de lui, lui commandait de faire certaines choses. Et Fox en allait avec sa Bible dans les villages anglais, puisqu'il était anglais, et il lisait la Bible aux gens en l'expliquant à sa façon. Et les paysans du 16e, 17e siècle, bon, ils lui disaient, allez, fous le camp, tu nous emmerdes. On a autre chose à faire que t'écouter, on a notre bétail à rentrer, etc. Puis comme il ne partait pas et qu'il continuait, il lui jetait des pierres, il le lapidait. Et il subissait les pierres, il ne réagissait pas, c'est ça le véritable honneur. Ça rejoint la non-violence de Gandhi, qui sera au fond un des disciples Quaker en quelque sorte. Il ne faut pas réagir, il ne faut pas répondre, il ne faut pas faire le mal. Mais il ne faut pas céder à la violence, il ne faut pas céder au mal. Si on détient la vérité, il faut dire la vérité. Et le malheureux Fox, il continuait de faire ses exposés sous des jets de pierre. Eh bien, cette secte est devenue, comme souvent après la mort de son initiateur, elle est devenue une chose très importante, surtout en Amérique. Et en Amérique, eh bien, un jour, on a vu deux mouvements Quakers opposés, comme toujours. Il y a un mouvement qui est allé davantage vers le sens de la justice, vers le sens de la rigueur, de ce qui est dû, et donc davantage vers l'égalité entre les sexes, entre les races, et l'autre qui ira davantage vers le sens de l'honneur, de la conscience, de la prise de conscience de l'individu. Et nous aurons affaire à deux sectes différentes. Les méthodistes, ça aurait été la même chose. Quand une secte se crée, elle tend à unir une certaine tradition biblique et une certaine exigence de l'esprit ou de l'avenir. Et puis un jour, ben, ça se scinde et il y en a deux. Et c'est cela tout au long. Et dans le moindre village américain, aujourd'hui, il y a des baptistes qui haïssent les anabaptistes d'un côté ou les luthériens qui haïssent les calvinistes, etc. Bon, ils s'entendent quand même, ça ne les empêche pas de faire un barbecue ensemble, ou d'aller au cinéma ensemble. Mais dans les jeunes couples américains, combien de Roméo et Juliette, si vous voulez. Bon. Maintenant, un moment, ça cesse d'être drôle. Il y a un moment où cette violence sous-jacente qui a motivé la guerre de sécession, mais qui continue d'être dans le moindre village américain, ou dans le choix de tel président, selon qu'il est républicain ou démocrate, selon les mots très adoucis qu'a choisi la politique, mais ça veut dire la même chose. Malgré tout ça, il y a un moment où ça éclate, où il surgit un groupe monstrueux, je dirais, ou un groupe délirant. Ben, le plus connu, l'un des plus scandaleux, mais il faut tout de même l'expliquer, parce qu'il faut tout expliquer, ça ne sert à rien de rejeter sans comprendre, ça a été le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est né de la manière suivante. Il est né de la défaite des sudistes après la guerre de Sécession. Ça a été terrible. C'est pas seulement les morts pendant la guerre, c'est pas la mort des sudistes ou nordistes. C'est que quand les sudistes ont été balayés de leur pays, de leur plantation, de leur domaine, de leur maison, ils ont été vraiment balayés. On les a complètement proscrits, comme on a pu proscrire les collaborateurs en France après la dernière guerre, ou comme on va proscrire les communistes russes demain. Dans ces cas-là, l'ennemi est bon à jeter aux chiens. Alors, ces planteurs du Sud, ces Virginiens dont nous parlions tout à l'heure, ces anciens princes, ces anciens aventuriers, ces anciens Mutlaov, ces anciens poètes, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils n'ont pas de recours. Ils sont spoliés par les troupes du Nord. Ils sont spoliés par les Noirs, qui se vengent souvent d'injustice, évidemment. Ils sont spoliés par les nouveaux chefs, gouverneurs d'État qui vont être élus à ce moment-là. Alors ils se réunissent secrètement, évidemment, parce que s'ils se font connaître, ils seront exécutés, donc ils se réunissent secrètement. Et puis ils poursuivent une lutte désespérée, perdue d'avance, mais violente, cruelle. Il faut empêcher les Noirs de voter d'abord. Il faut leur faire peur, leur faire tellement peur que les Noirs n'oseront plus voter. Donc on va les fouetter, on va les lyncher, dès qu'il y aura une faute, un crime, on accusera le Noir, ça sera le Noir. C'est horrible ce qui a été fait. Il n'y a aucune justification du Ku Klux Klan. J'explique que je ne justifie pas. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps, parce que les gens du Nord, c'était pas fou les gens du Nord, d'autant pas fou que c'était les plus intelligents, c'était les plus rationalistes, les plus sobres, je dirais. C'était pas des illuminés les gens du Nord, des gens très intelligents. Ben, ils ont dit, écoutez, foutez-nous la paix avec vos fouets, vos chaînes, votre croix de feu, votre... Ça se passe beaucoup plus simplement que ça. Qu'est-ce que vous voulez, qu'il n'y ait pas de noir élu dans le Sud? Ben, il n'y aura pas de noir élu dans le Sud. Puis il n'y a pas besoin de prendre des... Il n'y a pas besoin de prendre des carabines ou de pendre les gens pour ça. Il y a des manières de trafiquer les élections que tout le monde connaît. Laissez-moi faire, et puis vous verrez qu'il n'y aura pas de noir élu dans le Sud. Et puis, en effet, il n'y a plus de noir élu dans le Sud. Et le Ku Klux Klan a disparu. Il a disparu parce qu'il n'avait plus de raison d'être. Lui aussi, il a recommencé d'exister en 1916, comme la plupart des sectes. Mais c'est parce que la guerre de 14-18 a tellement terrifié les hommes que les hommes les plus sages, les plus raisonnables, sont revenus aux croyances anciennes, sont revenus aux sectes anciennes. Et d'ailleurs, le Ku Klux Klan qui est né, qui existe encore aujourd'hui en Amérique, n'a rien de comparable comme cruauté comme avec le Ku Klux Klan de 1865, bien sûr. D'abord, il risquerait gros à continuer de lyncher ou de pendre des Noirs. Mais il reste des racistes, il reste des gens du Sud. Et ils sont assez ridicules plus que terribles, ridicules de par leur refus inconditionné du noir, du juif et même du catholique, parce qu'ils rêvent là de quelque chose d'autre, ils ne savent pas trop quoi, je pense. Enfin, on peut comparer ce mouvement actuellement au dernier mouvement nazi que nous connaissons en Europe, sauf qu'il est plus constitué, plus cohérent que les mouvements nazis, mais c'est le même genre de choses. Mais aujourd'hui, il faut bien dire qu'il s'est passé en Amérique plusieurs phénomènes, en Amérique et dans le monde, plusieurs phénomènes qui donnent une autre couleur à ce problème des sectes, à ces problèmes ésotériques dont j'ai tenté de vous parler. Il y a le soulèvement de la jeunesse. Il y a la création de nouvelles industries et il y a évidemment la domination croissante des États-Unis d'Amérique sur le monde. Et par conséquent, conséquence un peu de ces trois conditions préalables, il y a un flux, un accroissement de sectes incroyables en Amérique. Actuellement, on pense qu'il y a 1500 sectes en Europe. Peut-être 1800 parce qu'ils s'en ajoutent tous les ans. Enfin, il y a plus de 6000 sectes en Amérique. Alors, je ne vais pas toutes vous les énoncer. La plupart de ces sectes viennent des mouvements de jeunesse. J'ai écrit déjà il y a une vingtaine d'années dans certains de mes livres, comme L'homme et les dieux, que c'était l'esclave à Rome qui avait pris la place des anciens nomades. C'était les nomades qui avaient détruit les villes du 4e millénaire avant Jésus-Christ, ce sont les esclaves qui ont détruit les villes et Rome même, par le catholicisme, le christianisme, du moins des origines, il y a 2000 ans. Parce que la religion d'amour est une religion d'esclaves, comme la religion judaïque ou les religions de justice étaient des religions nomades. Eh bien, je pense que la religion à venir, s'il y en a une qui doit venir, ce sera une religion de l'adolescence, de la jeunesse. Je pense que les adolescents prennent aujourd'hui la place, compris les esclaves à Rome ou les nomades il y a 4000 ans. Je veux dire qu'ils sont rejetés de l'état adulte, comme les esclaves étaient rejetés de la citoyenneté romaine ou comme les nomades étaient rejetés des citadins de la ville. Et je dois dire que depuis 20 ans, les mouvements de jeunesse malheureusement peut-être parce que j'avais aussi prévu que ça serait pas facile et que ça serait pas toujours drôle ni pour les jeunes ni pour les autres ni pour les adultes. Eh bien les événements semblent bien me donner raison, mais c'est à travers 1000 sectes, des sectes purement juvéniles et données comme juvéniles. On les voit bien dans l'ordre. Il y a eu les blousons noirs dès 1950. Ceux qui honoraient à la fois le gangstérisme et le jazz, bien sûr. La musique les suit, ou les précède. Mais aussi des héros de cinéma. Ça a commencé par le culte de Brando ou de James Dean. Et puis des poètes. Et puis des créateurs de chansons essentiellement, ou de très beaux poètes d'ailleurs. Et puis c'est devenu des beatniks qui étaient plus secs, plus desséchés, plus durs. Les beatniks qui ont fait éclater le monde moderne, qui ne s'en est pas relevé. Les beatniks ont disparu, eux, mais la révolution qu'ils ont suscitée n'a pas fini de produire des vagues. Les beatniks ont démontré. Et les hippies qui ont suivi. Plus doux les hippies, plus tournés vers l'amour. Faites l'amour, pas la guerre. Les beatniks et les hippies, en une dizaine d'années, ça a été très rapide, entre 60 et 70, ils ont démontré au monde que toutes les lois sur lesquelles se fondait la société capitaliste, et aussi bien la société d'ailleurs non capitaliste, la société communiste, que toutes ces règles étaient absurdes, qu'il n'y avait pas besoin des trois repas quotidiens, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une maison ou crécher, qu'il n'y avait pas besoin d'argent. Des centaines de milliers de jeunes ont traversé le monde, sont allés d'Amérique en Asie, d'Asie en Australie, d'Australie en Europe, sans argent. L'impossible. L'impossible, pas réalisé par deux ou trois, mais par des centaines de milliers d'hommes qu'on rencontrait partout, de filles et de garçons qui vous montraient par leur existence même que tous les principes sur lesquels notre société se fonde sont illusoires et qu'on peut vivre hors. Alors, ils vivaient de bananes, ils vivaient de noix de coco, mais oui, j'en ai connu. Ils vivaient de morceaux de pain qu'on leur donnait ou qu'ils... Certains les plus forts apprenaient à les faire. où ils apprenaient à élever une vache, ou non pas une vache quand même, des moutons, une chèvre. Ils faisaient des tissages, ils vivaient, et surtout, ils connaissaient le monde, ils découvraient le monde, ils s'ouvraient à bon. Cela s'est adouci, s'est affaibli, mais il y a eu d'autres mouvements des clameurs, des hooligans, qui sont peut-être pires, plus cruels, plus violents. Mais les jeunes sont là, et croyez-moi, ils sont là pour longtemps. Les guerres juveniles, comparables aux guerres serviles de Rome, n'ont pas encore commencé. Si, elles ont commencé. En Chine, on a tiré la mitrailleuse sur les jeunes, et ailleurs aussi. Enfin, dans les pays civilisés, on hésite à tirer la mitrailleuse quand même sur les manifestations de jeunes. Mais ça viendra. Parce que ça ne peut pas se ralentir. Les ouvriers qui étaient le moteur, l'ouvrier, le prolétaire, qui pour Marx, Karl Marx, était le moteur de la révolution, ne pouvaient pas être le moteur de la révolution. Parce que ce que veut l'ouvrier, le prolétaire, c'est devenir un bourgeois. Dès l'instant qu'il devient un bourgeois, c'est-à-dire dès l'instant qu'on l'assure de sa naissance, de retraite, de sécurité sociale, de protection de toute nature, il n'a plus besoin de faire la révolution. Et enfin, il ne fait plus la révolution. Bon, il fait des grèves pour avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, mais c'est rien de comparable aux grandes révolutions du siècle dernier. Alors que le jeune, lui, bien sûr, vous me direz, il devient adulte. Ah, c'est sûr. Donc, fini la révolution. Mais non, pas fini la révolution. Parce que les jeunes sont à la génération suivante. Le jeune est toujours là.